Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge audio.
L'ADN est devenu l'un des points centraux de l'univers de la généalogie ces dernières années. Le succès des kits, vendus par les sites américains, à grand renfort de pubs sur Internet notamment, a donné un coup de fouet au secteur. Mais il a surtout, en France, suscité pas mal de prises de tête. Depuis les associations jusqu'aux hémicycles parlementaires, on n'a jamais autant causé de généalogie, de recherche de ses ancêtres et de génétique que ces deux dernières années. Et c'est loin d'être fini, tant la question de l'ADN récréatif ou généalogique est toujours un sujet de crispation très vif.
Vous ne ferez certainement pas votre généalogie à partir de l'ADN. Ça, c'est pas réaliste, c'est pas possible.
Jean-François Pélan, président du Centre généalogique du Finistère.
Pour moi, c'est vraiment quelque chose, une science auxiliaire. Et il faut quand même rappeler que la généalogie récréative en France est interdite par la loi. Donc moi, je suis juriste de formation. Il n'est pas question que j'aille contre une interdiction légale et faire des recherches par l'ADN, puisque c'est interdit, quoi.
Et la France, en l'occurrence, fait figure d'exception en la matière, puisqu'un très grand nombre de pays permettent la commercialisation et la pratique de ces tests.
Il y en a beaucoup, hein, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, c'est autorisé dans beaucoup de pays d'Europe, dans la mesure où c'est pas interdit, en fait. Hein,
oui. Guillaume Demorand, journaliste pour la Revue française de généalogie.
Il n'y a pas de loi qui interdit spécifiquement de faire des recherches généalogico-génétiques, d'acheter des kits ADN et d'en exploiter les résultats sur le plan généalogique. Il n'y a pas beaucoup de lois qui interdisent, sauf en France, justement. Oui. C'est pas interdit de faire des tests ADN en France. Heureusement, mais c'est strictement encadré dans 3 cas très précis. C'est le cas de la recherche médicale, donc un chercheur qui veut par exemple faire de la génétique des populations, il peut parfaitement mettre en place des études en faisant participer des Français pour lesquels on va tester leur ADN. Ensuite, un médecin qui fait de la recherche médicale sur des maladies rares par exemple peut évidemment de manière très légale, procéder à des enquêtes génétiques. Et puis le troisième cas, qui est peut-être plus connu, c'est évidemment le cas du procureur de la République et du juge d'instruction qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, sont bien sûr amenés à faire des tests génétiques dans un environnement légal parfaitement cadré. On risque d'avoir une amende de 3 750 € si on est français et qu'on passe un test ADN, qu'on achète un test ADN et qu'on pratique une analyse de son génome, qu'elle soit partielle ou totale, ça ne change rien. C'est interdit par la loi et c'est puni de 3 750 € d'amende. Après, sur la réalité de l'application de cette amende, au cours des débats sur la révision de la loi bioéthique, dans lesquels certains parlementaires avaient essayé de faire passer un amendement ou plusieurs amendements qui autorisaient les tests ADN à visée généalogique, au cours des débats, on a interrogé François Molins, qui était à l'époque le procureur général de Paris, et il a très clairement dit que les procureurs en France avaient autre chose à foutre que d'aller pourchasser des gens qui auraient acheté des kits ADN, et voilà. Bon, tout en laissant entendre que c'était parfaitement illégal et que c'était à vos risques et périls. Et si on est une entreprise qui propose ce genre de service en France, alors là, j'ai plus en mémoire les amendes, mais elles sont colossales. Mmh. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas un opérateur français qui se risque, depuis la France, à proposer des kits ADN.
Dans la partie ADN, il y a deux parties. Il y a la partie carte du monde, où on essaie de dire d'où vous venez et d'où venaient vos ancêtres, qui est une partie quand même relativement statistique et qui n'est pas vraiment de la généalogie.
Toussaint Rose, fondateur et PDG du site Filet.
Puis vous avez la partie qui concerne les liens de parenté et les matchs, qui est extrêmement fiable et qui est vraiment de la généalogie et qui vous permet de retrouver des cousins très éloignés à une dizaine de degrés. Donc nous, on soutient le développement de ces tests ADN grand public, qui sont des tests extrêmement fiables pour retrouver des parents, parfois très éloignés, et pour construire son arbre généalogique et faire de nouvelles découvertes.
La vraie partie intéressante pour la généalogie, c'est le cousinage par l'ADN. C'est dès lors que vous avez un pourcentage suffisant d'ADN en commun, c'est-à-dire que vous êtes cousin.
Jacques Lemarois, fondateur et PDG du site Généanet.
Et donc, sur ces systèmes de tests ADN, on arrive à faire des calculs de parenté, en fait, entre deux personnes, en disant, ben, vous et cette personne, vous êtes cousins au xème degré, parce que vous partagez tant d'ADN commun. Avec cette base de données, vous avez des cousins génétiques, mais après, vous ne savez pas comment vous êtes cousins, en fait. Vous savez que vous êtes cousins, vous êtes cousin issu de Germain, mais vous ne savez pas comment. Après, il faut faire une enquête généalogique pour retrouver l'ancêtre commun. Et être capable de dire, bah, on est cousins comme ça. Donc nous, dans notre système, donc, vous avez ce matching qui vous donne le cousinage, et après, on essaie de combiner avec l'arbre pour vous dire, bah, tiens, vous avez un village où vous avez un village en commun, ou des noms en commun, ou des noms en commun dans un village en commun, où ce couple-là est dans vos deux arbres.
C'est un marché en plein développement qui se développe malgré l'interdiction légale. Ça n'a pas d'effet. On voit bien que on a beau dire aux gens qu'ils risquent, ou ne pas leur dire peut-être, qu'ils risquent 3 750 euros d'amende, ça n'empêche pas le développement de ce marché en France. Il y a eu des révisions qui ont été demandées dans le cadre de la loi bioéthique, avec un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il y a eu des débats assez riches, assez intéressants depuis des mois et des mois, parce que la révision de la loi bioéthique, ça fait très longtemps que c'est sur le grill. Vous savez tous que la loi bioéthique, son objet, c'est pas du tout les tests ADN. C'est évidemment d'ouvrir de nouveaux droits. Mais pas du tout dans le cadre de l'ADN. C'est complètement périphérique dans l'esprit de cette loi, de la révision de cette loi. Mais c'est quand même un sujet qui a été abordé et que les parlementaires ont voulu aborder.
Je vous alerte enfin sur les tests généalogiques, dits récréatifs. Les tests généalogiques exposent à une multitude de risques peu connus, mais qui constituent une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs.
Bien. Moi, je ne suis pas du tout fan de ces tests génétiques à vocation généalogique.
Cet amendement pose un cadre.
L'interdiction de ces tests est aujourd'hui purement virtuelle.
Bien.
Une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs.
Bien. Tenter de vouloir encadrer.
Le gouvernement émet un avis défavorable sur ces tests.
On sait que derrière ces tests, il y a énormément de lobbying.
Bien. Les résultats n'ont en réalité aucune valeur scientifique. Enfin, vous pouvez vous retrouver parce que vous avez un marqueur qui est prédominant dans une région du monde, avec une affirmation comme quoi vous provenez de cette région du monde, alors que personne dans votre famille n'en provient.
Voilà, c'est un sujet complexe.
Bien, merci.
Merci, monsieur le Président.
Merci, merci monsieur le Président.
Merci, monsieur,
merci,
président.
Monsieur le rapporteur.
Merci, allez, je passe au vote. Donc, nous avons 3 amendements avec des avis négatifs. Le 169, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 98, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 76, même vote, il est rejeté.
Donc, il y a de longues discussions, aussi bien à l'Assemblée, peut-être encore plus au Sénat. Et ça n'a pas été possible de changer la loi. Donc, elle ne va pas, à mon avis, changer avant très très longtemps.
Depuis 2018, on essaye de faire changer la loi. Avec les lois bioéthiques, il y avait une opportunité pour changer la loi et légaliser les tests ADN généalogiques. Malheureusement, il a été impossible de rencontrer des membres du gouvernement pour faire valoir nos arguments. En fait, la crainte, quoi, ce qui nous apparaît sur les prises de position publiques du gouvernement, c'est la crainte de légaliser les tests ADN santé. Leur crainte, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et que de ces privés puissent offrir des tests de diagnostic sur des prédispositions des maladies, ce qui est effectivement un sujet controversé. C'est-à-dire que dès lors que vous n'avez pas une interprétation d'un médecin spécialiste, que vous avez une prédisposition à telle ou telle maladie, si vous avez la nouvelle sans accompagnement, ça peut être... Ça peut avoir des mauvais effets sur vous.
Les grandes craintes, c'est qu'on se retrouve, par exemple, à publier son ADN sur un portail et que ça soit, d'une manière incidente, on ne sait pas comment, soit vendu par le portail, soit récupéré, piraté, hacké, et qu'ensuite, ça soit en vente libre sur le marché des hackers. Ou alors, autre crainte qu'on entend souvent, ça serait, par exemple, qu'une entreprise, une mutuelle ou une société d'assurance apprennent que vous êtes là, vous voulez acheter une maison ou un appartement, vous prenez un crédit, votre banquier vous dit il faut faire un bilan de santé, et votre assureur pendant ce temps-là va consulter une base de données génétique, s'aperçoit que vous, monsieur, vous avez 45 ans. Ouh là là, attention, votre génétique prédit des maladies terribles, vous allez avoir des problèmes cardiaques, peut-être un cancer qui guette, parce qu'on peut lire beaucoup de choses dans les gènes. Et la grande crainte, c'est que ces informations-là soient récupérées par des intérêts commerciaux et qu'ensuite, une conséquence toute simple, qu'on vous refuse votre crédit parce que vous avez trop de risques de développer telle ou telle maladie. Et évidemment, ça, c'est évidemment pas possible. On imagine bien que la génétique, c'est pas quelque chose qui puisse se vendre, s'acheter comme un produit ordinaire, s'échanger comme un fichier client. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le même registre. Et c'est ça qui a un petit peu bloqué les parlementaires sur ce sujet, en disant le risque de perdre ces données génétiques et qu'elles soient récupérées et réutilisées d'une manière inacceptable, il est quand même important.
Et les arguments fallacieux qui sont sortis par ceux qui veulent à tout prix empêcher, non, toutes ces données, c'est ultra sensible, c'est extrêmement protégé par la RGPD. Si une société s'amusait à... Ça n'arrivera à rien. Et ça peut être encadré par la loi également.
L'argument des opposants, enfin de ceux qui voulaient ouvrir la loi, c'était au contraire de dire, mais si on ne fait rien, les gens vont quand même acheter des tests ADN, parce qu'on estime qu'il y a des centaines de milliers de Français qui ont déjà acheté des tests ADN à visée généalogique ou même simplement pour essayer de comprendre leurs origines anciennes, pour essayer d'en... C'est presque un truc un peu amusant. Hein. On voit des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font la promotion des tests ADN.
Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo super spéciale et que je suis vraiment, vraiment ultra, ultra content de faire parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de MyHeritage. J'ai eu très peur de le faire au début parce que je me disais, j'ai tellement de fantasmes sur d'où je viens, mon ethnicité, d'où viennent mes ancêtres, que j'avais un petit peu peur de perdre un petit peu des fantasies. Et là, c'est bon, je vais tout savoir. Maintenant, j'ai beaucoup trop attention.
Aux États-Unis, on offre ça en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de Noël même. Hein. Vous avez sous le sapin de Noël, vous avez votre kit ADN. Et donc, c'est ce risque de perte de vos données et d'exploitation de vos données génétiques qui a fait reculer les parlementaires, avec aussi parfois des craintes un peu irrationnelles. On a entendu l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui expliquait doctement que si on autorisait les tests ADN en France, la moitié des Français allaient s'apercevoir que leur père n'était pas leur père. Bon, ce qui est quand même une vision complètement, je pense, erronée de la situation, évidemment, que ça existe. Mais ce n'est pas du tout dans ces proportions-là. On ne risque pas de découvrir brutalement que notre père n'est pas notre père. C'est au contraire... C'est même l'inverse qui se passe. C'est des gens qui ne connaissent pas leur père biologique. Il y a énormément de cas de gens qui ont retrouvé leur père biologique par des tests ADN.
Donc c'est totalement absurde où on laisse des acteurs étrangers se constituer des bases de profils ADN français massives et les acteurs français ne peuvent pas se permettre de commercialiser des tests ADN parce que ce serait pénal. C'est une volonté d'infantiliser les gens, de protéger les gens contre eux. C'est de dire, c'est la France. Alors ça va, il y a à droite et Jean-Luc Mélenchon hein, qui veulent poursuivre l'interdiction. Alors ils ont peut-être des choses à cacher, je ne sais pas. Sur la raison qu'il ne faut pas permettre de découvrir les secrets de famille. En fait, le risque, c'est que vous découvriez que votre père n'est pas votre père et que ça vous traumatise. Et donc, c'est toute la question, c'est est-ce qu'il faut maintenir les secrets de famille ? Pour ma part, moi, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, notamment celui de Serge Tisseron, « Secrets de famille, mode d'emploi » et d'autres articles. Les secrets de famille, c'est toxique. Et vouloir les maintenir, c'est maintenir des personnes dans la dépression, dans la recherche de leur, dans le mal-être. Ce que disait Marc Le Fur, un député de l'Assemblée, qui en première lecture a voté contre la légalisation des TSN, en deuxième lecture a voté pour, en disant voilà, on ne peut pas empêcher les gens de chercher leurs racines. Mmh. Et donc, moi, je propose plutôt que de les laisser faire ça à l'étranger dans des conditions pas toujours encadrées, de légaliser ça en France de manière encadrée. En indiquant bien ce qui est autorisé et pas autorisé.
Les premiers cas sur lesquels j'ai commencé à étudier, c'était le cas d'un jeune Français d'origine vietnamienne qui avait été adopté au Vietnam en 1968 et qui, par l'ADN, a retrouvé son père biologique. Ses parents adoptifs l'avaient encouragé dans cette démarche et donc il a retrouvé son père en passant un test ADN. Et vraiment, avec un peu de persévérance... alors, évidemment, le père était un GI américain, donc ça facilite parce que les bases de données américaines sont extrêmement riches et on a plus de facilité à trouver quelqu'un aux États-Unis qu'en France. Mais ça commence à venir en France.
Nous, ça nous intéresse beaucoup.
Valérie Gauthier, présidente de la Fédération française de généalogie.
Pour moi, je regrette énormément que le choix du législateur de ne pas permettre de retrouver ses racines. La Déclaration des droits de l'homme nous autorise à retrouver nos racines. Et là, pour les personnes qui ont des trous dans leur arbre généalogique, je suis dans ce cas-là, hein. J'ai des filles mères, j'ai pas honte, hein. Je suis très fière de ces femmes qui ont su élever toutes seules leurs enfants, mais il y a eu un papa, hein, on fait à deux le bébé. Et bon, moi, je me suis fait tester, hein, je suis même plusieurs fois, d'ailleurs, sur différents sites, parce que j'ai voulu vérifier. J'ai eu le plaisir de découvrir, alors que je ne m'y attendais pas, qui était le père de ma petite aïeule née en 1818. Mmh. Donc ça, c'est un grand bonheur pour moi, puisque ça, en plus ça me permet de cousiner avec d'autres personnes. Enfin, ça m'a... Voilà, c'est le... Et c'est ça qui est intéressant. Puis en même temps, la surprise que j'ai eue, c'est que mon cousin Germain a lui aussi s'est fait tester. Et là, on a bien matché et ça a bien confirmé nos liens. Donc ça, c'était amusant.
L'aspect un petit peu moins amusant, c'est le volet judiciaire et policier de la chose. Car l'ADN intéresse depuis longtemps les enquêteurs, qui avaient notamment poussé à la création du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Un fichier créé dans la foulée de plusieurs affaires très médiatiques, entre autres l'affaire Guy Georges à la toute fin des années 90. L'un des arguments de ses promoteurs étant que si on avait disposé d'un tel fichier plus tôt, plusieurs des victimes du tueur de l'Est parisien auraient pu être sauvées. Le fichier, créé officiellement en 2000, a peu à peu été élargi, mais l'irruption de l'ADN récréatif change la donne.
Si vous êtes policier, vous avez un ADN recueilli sur une scène de crime. En France, le policier, qu'est-ce qu'il fait ? Il le compare au fichier national des empreintes génétiques, qui comporte à peu près un peu plus d'un million de personnes. Mais un million de personnes qui sont choisies parmi des gens qui ne sont pas la population générale, qui sont des gens qui ont, pour certains, commis des infractions et d'autres non, mais en tout cas, qui sont susceptibles d'avoir commis des infractions, ce n'est pas la même chose que de comparer avec un fichier global et général de la population qui ratisse, lui, très large. Si le criminel n'a jamais été inquiété, il n'est pas dedans. Il ne peut pas être dedans. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce fichier ne pouvait pas être interrogé au deuxième degré. Le premier degré, c'est soi. Le deuxième degré, c'est les parents ou les enfants. Et par cette méthode-là, il y a déjà des gens qui ont été identifiés dans certains crimes. Aux États-Unis, il y a une méthode de triangulation qui consiste à comparer l'ADN inconnu à la base de données de population générale, génétique, qui se trouve par exemple sur des bases de données comme GEDmatch ou sur des grandes bases de données comme MyHeritage, comme Ancestry, comme FTDNA, Family Tree DNA, qui comporte elle aussi des millions de personnes. Et donc, la triangulation, ça consiste à dire on va établir des rapprochements génétiques et on retrouve des gens qui ont un lien de parenté avec vous. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de gens qui ont un lien de parenté avec un criminel. Mais ils ne le savent pas, évidemment. Ça peut être un lien de parenté relativement lointain. Et donc, la méthode, elle consiste à retrouver des liens de parenté le plus proche possible de ce criminel, établir le lien de parenté de tous ces gens qui ne connaissent pas le criminel, mais qui ont publié leurs données génétiques dans une base de données, et de faire ensuite de la généalogie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire de faire la généalogie de tous ces gens et d'essayer de retrouver leur ancêtre commun. Donc on fait de la généalogie, on remonte du 21e siècle jusque peut-être le 20e ou parfois le 19e siècle, on trouve l'ancêtre commun de tous ces gens qui sont apparentés aux tueurs, l'ancêtre commun. Ensuite, on refait de la généalogie tout à fait ordinaire. On oublie la génétique. On n'est plus dans la génétique. Et on dresse la liste de tous les descendants de cet ancêtre commun. Eh bien, dans la liste de tous les descendants de cet ancêtre commun, mathématiquement, vous avez le tueur.
Aux États-Unis, on retiendra l'arrestation de cet homme qui a terrorisé la Californie, baptisé le tueur en série du Golden State. Il aurait assassiné 12 personnes et violé une cinquantaine de femmes. 40 ans que les enquêteurs cherchaient à l'identifier et le localiser.
Joseph James DeAngelo, 72 ans, pourrait bien être le tueur du Golden State. DeAngelo a été arrêté hier dans son pavillon de cette banlieue paisible de Sacramento. C'est son ADN qui l'a confondu.
Le cas le plus connu, c'était un des premiers, c'était le tueur du Golden Gate, c'est-à-dire un violeur-tueur qui sévissait dans les années 80 au nord de la Californie. Et il a pu être identifié par son ADN comparé à ses bases de données. Tout ça pour dire que l'utilisation de ces bases de données, à l'insu des gens qui déposent leurs gènes, leurs résultats génétiques sur ces bases de données, eh bien, elle est extrêmement gênante. Parce qu'on n'a demandé à personne si c'était possible d'analyser, de comparer avec des criminels. C'est choquant parce que c'est une utilisation détournée de la génétique et des voies pour lesquelles elle a été. Les gens ont fait ce test ADN.
Alors sur le côté judiciaire, effectivement, c'est tout un nouveau pan des enquêtes judiciaires qui permet de résoudre ce qu'on appelle les cold cases, les cas irrésolus. Ils ont résolu des dizaines et des dizaines. Ils sont sur des centaines de cas comme ça. Et en France, on va devoir aller à l'étranger pour résoudre des cold cases de la même façon. Donc ça pose des questions éthiques. Mais voilà, si vous avez un cousin criminel, donc il faut éviter de mettre votre profil ADN sur Internet, c'est sûr.
C'est des critiques qui sont légitimes et qu'on peut comprendre. En même temps, il y a quand même beaucoup de garde-fous et de contraintes légales qui font que ces acteurs ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ces profils ADN et que quand ils ont été utilisés, c'était quand même pour résoudre des problèmes criminels qu'il était légitime de résoudre.
C'est une mode, il y a une mode actuellement de l'ADN et une mode qui rapporte beaucoup d'argent à des sociétés soit en Israël, soit en Amérique. Hein. Bon, faut pas se le cacher, quoi.
Jean-François Pellan, président du Centre généalogique du Finistère.
Puis après, il y a les problèmes éthiques qui sont liés à l'ADN. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre ADN, c'est aussi celui que vous transmettez à vos enfants, c'est celui que vous avez en commun avec les membres de votre fratrie. Et quels sont les garde-fous législatifs qui ont été mis en place ? Est-ce que vous n'allez pas, en donnant votre ADN, faire quelque chose qui va se retourner contre un des membres de votre famille parce que vous avez donné votre ADN, quoi. Donc je suis extrêmement prudent sur ces histoires d'ADN, quoi.
Il va y avoir plusieurs switches dans la généalogie. Vous avez plusieurs types de généalogie. La généalogie traditionnelle à l'ancienne, où on s'arrête peut-être même jusqu'à la Révolution parce qu'on estime qu'on ne peut plus aller plus loin. On a la généalogie, on va remonter bien plus loin parce que là, on est passionné, on va à fond. On a aussi la généalogie de l'ADN. C'est comme un arbre au printemps qui se déploie, avec les bourgeons, les feuilles qui s'ouvrent et puis les fruits qui vont arriver. C'est ça, la généalogie. Moi, je la vis comme ça.
Alors, quelle tête aura cet arbre dans une dizaine d'années ? C'est l'avantage de se passionner plus pour le passé et l'histoire que pour les tentatives de prédiction du futur, c'est qu'il nous reste à la fin des questions, des interrogations et pas ou peu de certitudes. Merci à Valérie Gauthier, Toussaint Rose, Jacques Lemarois, Guillaume Demorand, Jean-François Pellan et Michel Durose pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. C'est Geoffrey Puitch qui a réalisé ces deux épisodes qui, comme tous les autres, les anciens, les actuels, les prochains, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.